d'abord, on va prier, puis on va lire le texte de ce matin, toujours dans Luc 14, du verset 15 au verset 24, pour ceux qui veulent déjà prendre des notes ou repérer le passage dans leur Bible. Bonjour à Babette et à son époux Andreas. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour cette matinée, belle matinée, ensoleillé, avec de l'air frais qui nous permet de bien nous oxygéner, de bien respirer. Donc, on te demande, Seigneur, de nous bénir aussi par le souffle de vie que tu sais, Seigneur, répandre en chacun d'entre nous à travers ta parole et ton onction. Ce matin, Seigneur, on a besoin de toi. Et ce matin, on veut être ouvert, disponible, disposé à cette parole que tu as préparée de toute éternité pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu avais un message, des mots, un sujet que tu voulais traiter avec nous de toute éternité. Tu l'avais préparé et tu le voulais spécialement, spécifiquement pour aujourd'hui. Alors, je te rends grâce de ce que tu ne nous fais pas faux bon, malgré que nous te le faisons régulièrement. Tu es là, fidèle, présent, pour nous toucher, pour nous bénir, pour nous instruire. Alors, merci, Seigneur, d'ouvrir notre entendement à tous et chacun. Touche ma sœur, touche mon frère, touche-moi aussi, Seigneur, alors que j'enseigne, que je reçoive ce même enseignement et que je puisse aussi l'appliquer dans ma vie. En toute chose, Seigneur, nous déclarons que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous. Dans Luc au chapitre 14, le verset 15 à 24, c'est ce qu'on appelle la parabole des convives, mais vous savez que pour cette semaine, on a mis un autre nom. Je le répéterai tout à l'heure après la lecture. Verset 15 nous dit, « Un de ceux qui était à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître, et le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Alors que Dieu bénisse sa parole. Je vous rappelle le titre pour cette semaine, « Le drame de l'invitation déclinée ». Le drame de l'invitation déclinée. Hier, on a fait sortir plusieurs drames. Premièrement, de prendre sa propre place pour acquise dans le royaume de Dieu. De prendre la place de notre prochain pour acquise et ne pas lui partager l'évangile alors qu'on ne sait pas effectivement s'il a mis sa vie en règle et s'il a fait la paix avec Dieu. Troisièmement, on a parlé du drame du fait de décliner l'invitation qui nous est faite par le Maître. On a parlé aussi du drame qu'il y a à se justifier ou à tenter de se justifier et de se déculpabiliser face à notre décision tout à fait délibérée de ne pas recevoir l'invitation du maître. Puis on a parlé du drame de refuser cette invitation et d'irriter Dieu. La parabole qui nous est montrée, qui nous est enseigné, nous dit effectivement que le maître a été irrité. Et enfin, le drame de rater notre rendez-vous avec le Seigneur. Grand drame, savoir qui nous a fixé rendez-vous de toute éternité, et que nous pourrions décider par notre refus, par notre choix de décliner l'invitation, de rater ce rendez-vous d'éternité. Aujourd'hui, on va parler de quatre excuses. La parabole ici nous en donne trois, clairement identifiées. Et je vais vous en rajouter une quatrième qui est comprise, je crois, dans cette histoire. La première, c'est cet invité, ce convié, cette personne qui a reçu une invitation et qui dit au maître à l'heure venue pour aller à la réception, qui lui fait dire « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Je viens d'acheter un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. On se rappelle que l'explication du terme « excuse-moi, je te prie », c'est tout simplement essayer de faire comprendre au maître « Voilà, j'ai de bonnes raisons de ne pas aller à la réception du jour. J'ai de bonnes raisons de ne pas me présenter au rendez-vous. Alors, je te prie d'accepter ces raisons et de m'en décharger ou de m'enlever la culpabilité d'avoir fait faux bond à ton invitation. C'est une raison qu'il offre, mais cette raison ne tient pas. Et une raison qui ne tient pas devient une excuse facile. Très souvent, on sert ce même genre d'excuse à Dieu où il nous demande de nous impliquer dans une œuvre. Il nous demande de nous rendre dans un endroit, il nous demande d'approcher quelqu'un, il nous demande de faire une chose et on lance au Seigneur tout un tas de raisons qui pourraient nous permettre, à nos yeux, dans la sagesse très limitée de l'homme, de concevoir que nous avions une bonne raison. Mais face à Dieu, ces raisons ne tiennent pas. Et je vous dirais que même intellectuellement, cette raison ne tient pas plus. La personne dit « Je viens d'acheter un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Ce qu'il dit, et la traduction en français peut-être qu'elle fait un peu défaut en ce sens, lorsqu'on parle d'acheter un champ, ça va plus que le champ. C'est pas nécessairement juste un champ de blé, un champ d'avoine ou autre, mais c'est aussi les dépenses, les dépendances, les maisons, les habitations qui sont joints à cette terre. Donc, lorsqu'il dit « je viens d'acheter un champ », c'est en fait qu'il vient d'acheter une propriété avec une maison, avec des terrains et des terrains qui servent à l'agriculture. Donc, plus ou moins, la personne s'est acheté un champ et elle dit, ou s'est acheté une ferme plutôt, et il fait dire donc au maître qui l'a invité, je dois aller voir ce que je viens d'acheter, je suis obligé d'y aller, excuse-moi, je te prie, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Tous ceux qui ont déjà acheté une propriété, vous savez qu'on ne le fait pas sans la visiter. Même si on peut faire un achat sur Internet aujourd'hui, la plupart des gens qui vont même acheter à distance via Internet vont trouver quelqu'un qui va les représenter à l'endroit où se trouve la propriété pour aller visiter la propriété, à savoir est-ce que les photos ont été truquées. Est-ce que la maison, est-ce que la propriété en vaut vraiment la peine comme les photos semblent le dire? À l'époque de Jésus, à l'époque où cette parabole est présentée, assurément, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de photos. Lorsqu'on veut acheter une propriété, on nous dit l'endroit, on y va et on visite la propriété. Donc, cet homme qui vient d'acheter cette propriété a déjà vu la propriété. Il s'est entendu avec le propriétaire pour l'achat ou la vente du dit bien, et donc il n'est pas obligé d'aller voir la propriété. La transaction est déjà faite. La propriété a déjà été visitée, estimée, on a négocié et on est parvenu à une entente. Et il décide malgré tout d'y aller et de faire faux bond à l'invitation qui lui avait été précédemment faite. En fait, ce qu'il dit, c'est « je viens tout juste de m'implanter ailleurs ». Il dit « je viens d'acheter une propriété, je suis obligé d'aller voir cette propriété. Je viens de m'implanter ailleurs, ailleurs que l'endroit où tu m'invites, ailleurs que l'endroit où se fait la fête, et je ne peux pas me déplacer là où tu m'as invité parce que je dois me déplacer ailleurs. » Très souvent, par nos décisions, par nos actions, par nos paroles, peut-être même, on dit au Seigneur, « Regarde Seigneur, tu veux que j'aille dans telle direction, mais moi, je vais ailleurs. » On a d'autres plans, d'autres projets, d'autres chemins qu'on fait supplanter à ceux de Dieu, qu'on met comme prioritaire au projet, au plan et au chemin de Dieu. Et on est en train de dire au Seigneur, moi je vais ailleurs. Seigneur, tu voudrais me conduire dans telle voie, mais moi je me suis déjà impliqué, je me suis déjà engagé dans un chemin qui est différent et je ne veux pas faire volte-face, je ne veux pas rebrousser chemin, je ne veux pas même m'arrêter un instant dans le chemin que j'ai entrepris. Seigneur, excuse-moi. Et très souvent, ce que les gens vont faire de surcroît ça, ce que les enfants de Dieu vont faire de surcroît cela, c'est de dire, Seigneur, bénis mon entreprise. Je le vois régulièrement lorsque deux jeunes gens viennent me voir en disant, pasteur, on a commencé à se fréquenter, puis on voudrait que vous priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Mais si vous avez déjà commencé, disons que Dieu ne voulait pas, si vous avez déjà entrepris le chemin, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous dise maintenant? Oui, vous avez entrepris le chemin et je bénis le chemin que vous avez entrepris. Et si Dieu avait décidé ou si Dieu savait que ce n'est pas le bon chemin à emprunter, vous voulez que Dieu dise quoi? Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu vous dise arrêtez, rebroussez chemin? La plupart du temps, les émotions étant ce qu'elles sont, l'amour étant ce qu'il est, non, ce qu'on veut foncièrement, c'est de dire à Dieu, bénis ce que j'ai entrepris, bénis le chemin dans lequel j'ai décidé d'aller et non pas, Seigneur, montre-moi ta voie. C'est un peu l'image que je trouve qui est lancée et qui ressort de l'histoire de la pêche miraculeuse aussi. Avez-vous remarqué que Jésus va... Non, c'est pas cette histoire-là, c'est dans la traversée de la mer. Lorsque Jésus dit « passons de l'autre bord », les disciples vont monter dans la barque de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui monte dans la barque des disciples, ce n'est pas Jésus qui monte dans la barque de Pierre, ce n'est pas Jésus qui monte dans la barque de Jean, d'André ou de Jacques, mais c'est les disciples qui montent dans la barque de Jésus. Et c'est une allusion que la Bible nous fait qui est assez marquante. Les disciples qui montèrent dans la barque de Jésus. Pourquoi ils peuvent-ils arriver de l'autre bord en toute sécurité? C'est parce qu'ils sont dans la barque de Jésus. Régulièrement, on ne veut pas monter dans la barque de Jésus, mais on voudrait faire en sorte que Jésus monte dans notre barque. On veut que Jésus vienne chez nous au lieu de nous d'embarquer dans sa barque, d'embarquer ou de monter dans son embarcation. On voudrait que le Seigneur nous bénisse de sa présence et nous bénisse de son onction, de son approbation. Et ce faisant, on est un peu en train de forcer la main de Dieu. Donc ici, la première excuse, c'est « Seigneur, je vais ailleurs. Tu me demandes d'aller à droite, moi j'ai déjà décidé d'aller à gauche, j'ai déjà entrepris le chemin, alors Seigneur, je ne m'arrête pas. » Malheur à nous si une telle chose survenait dans nos vies. Les chemins de Dieu sont parfaits. Les chemins que nous prenons sont tortueux et ne mènent pas à Dieu. Si je me fie simplement à mon intelligence, à ma sagesse, à mon expérience de vie, ma vie par elle-même est altérée diminuée par mon statut de pécheur, par ma nature pécheresse, ce qui fait que de par moi-même, je ne peux pas aller dans les voies de Dieu. J'ai besoin que Dieu me montre le chemin. Et voilà pourquoi sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, Je ne veux plus aller ailleurs, je veux aller là où tu me conduis. La deuxième excuse qui nous est présentée, là c'est un autre individu qui va dire au verset 19, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Celui-ci est en train de dire qu'il a fait un achat. Et je citais l'exemple dimanche de la personne qui va acheter une voiture. À moins que ce soit le même modèle que tu achètes, la plupart du temps, les gens qui vont acheter une voiture vont essayer la voiture. D'autant plus si c'est une voiture usagée. Et là, on s'entend, c'est 5 bœufs qui appartiennent à quelqu'un. Donc, la personne qui va acheter les bœufs pour travailler dans son champ va assurément regarder les bœufs, va assurément tester les bœufs, va assurément les faire travailler un peu dans la propriété du précédent propriétaire ou de celui qui vend, tout simplement pour s'assurer on n'est pas en train de me vendre de la pacotille. Donc, il va tester les bœufs. Et là, il dit, je viens d'acheter des bœufs, je vais les essayer. Tu ne les as pas essayés avant? Tu n'étais pas prudent avant pour le faire? Encore là, c'est une excuse et pas une raison. Ce qu'il est en train de dire, c'est, Seigneur, je viens tout juste de m'impliquer à autre chose. Tout à l'heure, c'était, je viens tout simplement de commencer un chemin qui me mène ailleurs. Et là, c'est, non, Seigneur, je viens tout juste de m'impliquer à autre chose. Je ne peux pas arrêter mes plans pour prendre part à tes plans. C'est ce que cet invité dit au maître qui les a conviés à la réception. Il dit, regarde, je suis déjà impliqué à autre chose. Je suis déjà en train de travailler sur autre chose. Je ne peux pas m'arrêter et venir faire la fête avec toi. Je ne peux pas m'arrêter et venir passer du temps avec toi. Et ce qu'il est en train de dire au maître, à celui qui l'a invité, c'est, j'ai mieux à faire. Tout à l'heure, c'est, je vais ailleurs. Et là, c'est, j'ai bien mieux à faire que d'aller manger et m'attrouper dans ta maison et passer la soirée avec toi. J'ai du travail. Il y a bien des gens qui mettent un tas de choses avant Dieu. Ça peut être les activités professionnelles, les activités familiales, les activités sociales ou tout autre type d'activité. Vont s'impliquer dans un tas de choses. Mais lorsque le Seigneur leur dit, viens t'impliquer près de moi, viens t'impliquer à mon œuvre, viens travailler dans mon royaume, très souvent on lui dit, Seigneur, je suis déjà pris avec autre chose. Et quand je dis au Seigneur, je suis déjà pris avec autre chose, c'est que je suis en train de lui dire, voilà, les choses dans lesquelles je suis impliqué sont plus importantes que celles auxquelles tu me demandes de donner du temps, des efforts et de l'intérêt. Donc foncièrement, je suis en train de dire à Dieu, j'ai mieux à faire. Parfois, les gens vont dire, je ne viens pas à l'église parce que je dois faire le ménage. Les gens vont dire, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai un repas, j'ai des invités ce soir et j'ai un repas à préparer. Ça veut donc dire que tu as placé ces invités et cette invitation que tu as lancée à des amis, à des connaissances, à des parents, comme étant plus importante que ce temps auquel tu étais convié avec Dieu. J'ai mieux à faire. Régulièrement, on se trouve ce genre de formulation très polie. On ne dit pas au Seigneur aussi abruptement, j'ai mieux à faire que de passer du temps dans ta présence. J'ai mieux à faire que d'aller me rassembler avec mes frères et mes sœurs à l'église. J'ai mieux à faire que de m'impliquer dans l'œuvre de Dieu. J'ai mieux à faire que de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. On ne lui dit pas aussi abruptement, ce serait être jusqu'à un certain point impoli, être insolent jusqu'à un certain point. Mais non, on se trouve des excuses beaucoup plus spirituelles. Mais tu vois, Seigneur, je voudrais venir ce matin, mais je ne peux pas venir parce que ce soir, je reçois des gens et assurément, on va leur parler de Jésus. Seigneur, tu m'as demandé de prendre soin des pauvres, de l'indigent. Ce soir, je reçois quelqu'un qui est en besoin, alors je ne peux pas venir ce matin. Ou sinon, on dit, Seigneur, je me suis déjà impliqué dans telle chose, je ne peux pas leur dire non parce que sinon, ça va mal parler. paraître. Je sais, Seigneur, que j'aurais pas dû m'impliquer, j'aurais pas dû m'engager, j'aurais dû plutôt penser, oui, venir auprès de mes frères, oui, venir à l'église. Mais Seigneur, je suis déjà impliqué, si je me désiste, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en tant que chrétien? Que je ne suis pas sérieux, que ma parole n'est pas fiable, qu'on ne peut pas me faire confiance? Alors Seigneur, assurément, tu ne veux pas qu'on pense cela. Mais qu'est-ce que Seigneur, lui, doit penser du fait que on dit, voilà, toutes ces activités sont plus importantes que le temps avec Jésus. Toutes ces activités, toutes ces choses deviennent plus lourdes dans la balance que de prendre du temps pour être dans la présence du Seigneur. Le louer comme sa parole nous invite à le faire dans la communauté des saints, dans la communion des saints, dans l'assemblée des saints. Alors régulièrement, de façon très spirituelle, on essaie de s'excuser en disant « Seigneur, j'ai mieux à faire ». Enfin, il y a ce troisième qui va dire « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller ». Je viens de me marier et c'est pour ça que je ne peux pas venir. Certains le pratiquent encore aujourd'hui. Certains vont dire, Seigneur, je ne peux pas m'impliquer dans ton œuvre, j'ai une famille. Seigneur, je ne peux pas m'impliquer dans ton œuvre, j'ai une épouse. Seigneur, je ne peux pas m'impliquer davantage concernant le royaume de Dieu. J'ai des proches, j'ai un mari, j'ai des parents, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà pourquoi un peu plus tard, dans ces mêmes discours, Jésus va dire, ben, s'il n'y a pas quelqu'un qui haït son père, sa mère, ses enfants, sa famille, il ne peut pas me suivre. Ce que Jésus dit, c'est pas de détester ses parents, c'est pas de détester son épouse, c'est pas de détester son mari. L'expression qui est utilisée ici, c'est tout simplement pour dire que Dieu doit passer en priorité, même sur l'épouse, en priorité même sur l'époux, en priorité sur les enfants, en priorité sur le royaume de Dieu, sur les amis. Le royaume de Dieu doit être la priorité numéro un de notre engagement. Ici, ce que ce jeune marié est en train de dire, c'est « je viens de m'unir à quelqu'un, je viens de m'unir à cette femme et je n'ai ni le temps ni l'intérêt pour quelqu'un d'autre. Mon ami, tu m'as invité, mais ma première priorité, c'est ma femme. » Ce faisant, il refuse l'invitation de se mettre dans le village, de refuse l'invitation qui lui a été faite de venir festoyer. Il n'a même pas la pensée même de dire, et ça je le mentionnais dimanche, il n'a même pas la pensée de dire, mais je sais que j'ai été invité, mais est-ce que je pourrais amener ma femme? Je viens juste de me marier, est-ce que je peux l'amener avec moi? Et quel est l'autre qui dirait, non, je veux juste que toi tu viennes, je veux pas ta femme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise, je m'excuse, est-ce que ma femme pourrait venir? Est-ce que on vous a déjà refusé? Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui dise, j'ai mes enfants que je peux pas faire garder, et est-ce qu'ils peuvent m'accompagner? Et vous allez dire non? Bien sûr que non. Vous allez les recevoir et cet autre est reçu, évidemment. Et c'est le royaume de Dieu. On parle d'un repas dans le royaume de Dieu, c'est l'image qu'on nous donne dans cette histoire. Alors, quel Seigneur viendrait pour dire, non, je ne te veux pas, je ne veux pas ton épouse, je veux simplement toi. Surtout ce même Seigneur qui dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Alors, on s'entend que c'est une excuse encore une fois, mais parfois cette excuse, c'est tout simplement pour cacher, Seigneur, j'ai quelqu'un de mieux à fréquenter. J'ai des amis à fréquenter et aujourd'hui, je préfère mettre en priorité mes amis par rapport à toi. J'ai des parents, j'ai des enfants, j'ai des gens que j'ai envie de voir davantage que de me tenir dans ta présence. Régulièrement, on va faire passer des gens aussi en priorité par rapport à Dieu. Et entendons-nous. Je crois effectivement qu'une épouse est importante et qu'un mari doit prendre soin de son épouse. Je crois que un époux est important et qu'une épouse doit prendre soin de son mari. Je crois que des enfants sont importants et que des parents doivent veiller à leurs enfants et des enfants doivent veiller à leurs parents. Je comprends tout ça. Par contre, je reviens toujours à cette même, à ce même baromètre, à cette même échelle des priorités. Elle n'est pas coulée dans le béton. La seule chose qui est immuable, c'est que la priorité numéro un de nos vies, c'est Dieu. Et qu'après ça, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, et puis ainsi de suite, autant qu'on peut avoir de priorités dans une journée, ça dépend de ce que Dieu dit. Et dans certains cas, effectivement, le Seigneur va dire, aujourd'hui, je veux que tu t'occupes particulièrement de ton épouse. Aujourd'hui, je veux que tu t'occupes particulièrement de ta fille. Aujourd'hui, je veux que tu t'occupes particulièrement de tes enfants ou de tes parents ou de tes voisins ou de tes amis. Et à l'occasion, Dieu peut dire, aujourd'hui, je veux que tu t'occupes particulièrement de toi. Prends du temps pour faire la sieste, prends du temps pour aller t'aérer, prends du temps pour aller marcher. Mais la priorité numéro un reste Dieu. Dans le cas de cette invitation qui est donnée dans cette parabole, ça représente un temps, un repas dans le royaume de Dieu. Un temps avec le Seigneur. Et là, on dit, mais Seigneur, je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Trois excuses. Et je vous ai dit qu'il y en avait une quatrième. Cette quatrième vient du fait que ces gens avaient été invités préalablement. On le voit lorsqu'on se rend compte que le maître va envoyer un messager à tous ceux qui avaient été invités. Donc, on regarde le verset 17. Regardez comment c'est formulé. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » À l'époque, comment ça se passait? C'était que on planifiait une fête, on planifiait un événement spécial et on invitait les gens. Et on leur disait, tel jour, il y aura une fête, il y aura une réception, il y aura un grand repas, serez-vous là. Et les gens confirmaient leur présence. Après quoi, le jour même de l'événement, comme c'est fait dans cette histoire, le serviteur du maître sort et va dire à tous ceux qui ont été conviés à la fête, « Regardez, maintenant tout est prêt, vous pouvez venir. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de montre. Je l'ai enlevé il y a quelques instants. À l'époque, on n'avait pas de montre. Donc, les gens devaient être avisés à la dernière minute que maintenant le repas était prêt. Mais ces gens avaient déjà donné leur parole. Ces gens s'étaient déjà engagés à venir à cette fête. Et à la dernière seconde, les uns après les autres ont décliné. Qu'est-ce que ça nous dit comme quatrième excuse? C'est de dire, ben avant c'était le temps. Avant j'aurais pu. Avant j'étais effectivement prêt et disposé. Mais maintenant c'est plus vraiment le contexte. C'est plus vraiment le temps. C'est plus vraiment l'occasion. Les circonstances s'y prêtaient, mais ne s'y prêtent plus aujourd'hui. Puis pour l'avenir, ben on verra. C'est de dire à Dieu, je n'ai plus le temps. J'avais le temps, mais tu m'as fait tarder et maintenant, je suis passé à autre chose. J'avais le temps, mais maintenant, je viens de m'acheter une propriété. Alors, je n'ai plus le temps. J'avais le temps, mais maintenant, tu vois, je me suis acheté des bœufs. Alors, je n'ai plus le temps. Si tu m'avais dit tout simplement, si tu étais venu me voir il y a 3 jours en disant « Ah, j'ai précipité les choses, je le fais en avance », j'avais encore l'occasion. Mais maintenant, j'ai plus l'occasion parce que je me suis acheté une propriété. Maintenant, j'ai plus l'occasion parce que je me suis acheté des bœufs. Maintenant, j'ai plus l'occasion parce que je me suis marié. J'avais le temps avant, mais maintenant je vais ailleurs, je consacre mon temps à aller ailleurs. J'avais le temps avant, mais maintenant je consacre mon temps à faire autre chose. J'avais le temps avant, mais maintenant je consacre mon temps à quelqu'un d'autre. Seigneur, c'était le bon moment quand tu m'as envoyé l'invitation, mais aujourd'hui, ce n'est plus le bon moment. Voilà notre quatrième excuse qu'on dit souvent au Seigneur. Et on essaie de se justifier. Ah oui, j'aurais pu faire telle chose dans le royaume de Dieu, mais tu comprends, après ça, les enfants sont arrivés, mais la famille est arrivée, l'épouse, puis les enfants, puis après ça, la carrière, tu vois. Fallait penser à nourrir ses enfants et à les faire grandir, à leur donner une instruction. Je n'avais plus le temps. Et assurément, le jour de la retraite, alors je le ferai. Il y a peu de gens qui tiennent cette promesse-là. En disant, oui, le jour de ma retraite, le Seigneur pourra compter sur moi. Puis le jour de la retraite, ben, on a cette activité, puis celle-ci, puis celle-autre. Le tournoi de golf, la pêche au saumon ou à la truite, la sortie qu'on n'a pu jamais faire avec son épouse parce qu'on était en train de travailler, parce qu'on était en train de faire ceci, et maintenant je fais cela. C'était le bon temps avant, mais maintenant, c'est plus le temps. Je prie mon frère, ma sœur, mon ami, que nous n'offrions pas au Seigneur de telles excuses. Parce que comme on l'a vu hier, de telles excuses irritent le Maître. Et on peut effectivement irriter notre Seigneur du fait qu'on lui dit « Je préfère aller ailleurs. » Ou « J'ai mieux à faire que d'être avec toi. » Ou « J'ai des gens que je préfère fréquenter. » Que toi. Ou Seigneur, c'était le temps, mais tu as trop tardé, c'est plus le temps maintenant. Ce faisant, on dit c'est ta faute, Seigneur. Si tu n'avais pas autant tardé, ben je ne serais pas parti dans tel chemin. Si tu n'avais pas autant tardé, je ne me serais pas impliqué dans tel travail. Si tu n'avais pas autant tardé, je ne me serais pas engagé auprès de telle personne. Si tu n'avais pas autant tardé, on aurait été dans le bon temps, mais on n'est plus dans le temps approprié. Et le blâme tombe alors sur Dieu, très spirituel, alors que nous savons que tout ce que Dieu fait, dans le temps, dans la durée, dans le moment où ça débute, dans le temps où ça termine, dans la portée du travail, tout ce que Dieu fait est parfait. Même son temps est parfait. Il n'est pas en retard. Il est tout le temps parfait dans tout, tout, tout ce qu'il fait. Alors évitons les excuses et mettons nos vies au diapason avec le plan, avec les projets et avec le temps de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin encore, tu nous as parlé. Ce matin encore, tu nous as instruit sur le fait de faire ta volonté. Et d'être capable de changer nos plans quand tu nous le demandes. Tu t'es approché de Pierre, d'André, de Jacques et de Jean qui étaient affairés à leur entreprise de pêche. Et tu leur as dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et ils ont laissé là leur bateau, leur barque, leur filet pour te suivre. Tu es passé à côté de Matthieu qui collectait les impôts. Et tu as dit, viens, suis-moi. Et Matthieu a laissé là sa table, ses clients. Il s'est mis à te suivre. Et nous, Seigneur, on voudrait te dire, c'est pas le bon temps. Ce n'est plus le bon temps. L'Église primitive a été commencée avec des hommes, avec des serviteurs, qui étaient prêts à te suivre, peu importe le moment de leur existence, et aller peu importe où tu les guiderais, et aller aussi loin que tu les mènerais, et aussi longtemps que tu le ferais. Si Pierre avait une belle-mère, c'est donc qu'il avait effectivement une épouse, et il a priorisé malgré tout ton œuvre. Seigneur, on sait que tu n'es pas un maître tyran. On sait que tu es un bon maître, un bon Seigneur. Alors tu nous permets d'avoir effectivement l'équilibre pour bien prendre soin de nos épouses, pour bien prendre soin de nos époux, pour bien prendre soin de nos enfants, mais tout en respectant et tout en honorant l'appel que tu lances sur nos vies. Et Seigneur, y a-t-il un meilleur exemple à donner à nos proches, à nos enfants, aux prochaines générations, que de se donner entièrement à toi et à ton œuvre. Alors je prie, Seigneur, que nous nous débarrassions de ces fausses raisons qui ne sont que de faibles excuses pour ne pas avoir fait jusqu'à présent ta volonté. Parle à ma sœur, parle à mon frère, instruis-nous et en toute chose, que ta volonté, ta bonne volonté, ta parfaite volonté, ton excellente volonté, seule et unique, s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Ainsi soit-il. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je vais voir si je peux saluer quelques personnes. En attendant, je vous rappelle que nous avons notre assemblée, notre étude biblique ce soir. Donc, tous ceux qui voudraient venir, vous rappelez qu'on n'est pas obligé de s'inscrire pour le mercredi soir. C'est plus facile de tenir un registre avec les quelques personnes qui viennent le mercredi soir pour l'étude biblique. Donc, si vous voulez être là, l'étude commence à 19h. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, bien entendu, on continue à diffuser sur les différentes plateformes Internet. Donc, ce soir, 19h. Puis aussi, les inscriptions pour dimanche matin. On vous invite à ne pas tarder dans vos inscriptions afin d'être là, effectivement, ce dimanche. Bien qu'on diffuse là encore sur toutes nos plateformes. Alors bonjour à Jean Rosario, que Dieu vous bénisse, un ami de notre sœur Aniris. Bonjour à Lucie. Bonjour à Yaoi. Bonjour au frère Ramon. Et je pense que c'est tout. Les autres, je vous ai déjà salué un peu plus tôt. Alors, ceci étant dit, on se retrouve ce soir 19h pour l'étude biblique. C'est le pasteur Sergio qui nous entretient ce mois-ci. L'autre chose, on s'est inscrit pour l'assemblée de dimanche. Alors, nous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.